France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Les jeunes s'intéressent-ils à la politique ? Oui, si l'on en croit l'enquête conversationnelle menée par le Cercle des économistes. 58% des 18-30 ans éprouvent de la curiosité pour la chose publique. Mais les politiques s'intéressent-ils à eux ? Ils répondent non à 74%, soit les trois quarts. Ils ne se sentent ni écoutés, ni représentés, encore moins considérés. Ils s'en méfient, ils s'en défient parfois. Et c'est l'un des grands paradoxes du moment sur lequel on a envie de revenir avec vous ce soir. La classe politique ne sait pas s'adresser à eux. Ils considèrent à près d'un quart que leur vote n'a même aucun impact. Alors, après l'éco-anxiété, peut-on parler de démo-anxiété ? Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre démocratie au fond ? D'autant que les jeunes ne sont pas indifférents à la marche du monde. Ils s'informent sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels. Alors comment renouer ce lien ? D'autant que les moins de 30 ans ne sont pas en retrait, dans leur bulle désinvestie au contraire. On les a vus se mobiliser pour le climat ces dernières années ou s'engager dans des associations, des ONG. Soucieux de leurs concitoyens, seul un quart ne participe jamais à aucune action citoyenne. C'est ce paradoxe qu'on interroge ce soir. Peut-on créer des passerelles entre engagement citoyen et politique ? Car dans les deux cas, c'est la vie de la cité qui est en jeu, leur avenir et aussi le nôtre. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on commence par Augustin qui nous appelle du Havre. Bonsoir Augustin.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Eh ben, j'apporte mon témoignage pour ouvrir l'émission avec grand plaisir. Donc, moi personnellement, j'ai 18 ans, je suis militant chez les écologistes.
Oui.
Et alors moi, je crois encore en la politique et j'ai bon espoir d'amener quelques changements positifs, notamment en matière environnementale. Mais le souci, c'est qu'à parler, alors, que ce soit au lycée avec d'autres jeunes de mon âge, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même un écart entre notre vie de jeunes citoyens et la sphère politique. Et donc, je me posais une question, et j'espère que vous allez y répondre dans l'émission, c'est est-ce que le vote à 16 ans pourrait contribuer à un rapprochement à travers une sensibilisation plus importante pour essayer de voilà, boucher cet écart entre la jeunesse et la politique.
Eh bien, c'est bien. On va commencer le débat avec cette question qui, effectivement, en fait partie. Donc, pour vous répondre, Jean Massier, bonsoir.
Bonsoir.
Vidéaste, animateur sur la plateforme Twitch, vous présentez comme vulgarisateur de la vie politique. Laurent Lardeux, sociologue, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes en ligne avec vous, chargé de recherche à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Et bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur général de l'IFOP, co-auteur avec Stuart Shaw de La Fracture. Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs. C'est publié aux éditions des Arènes. Augustin, il ouvre le débat en disant le vote à 16 ans. Frédéric Dabi.
C'est vrai que sur le papier ça peut être intéressant, puis en plus un précédent, hein, le jeune président élu Valéry Giscard d'Estaing en 74, qui fait passer la majorité et le vote de 21 à 18 ans. Ça ne l'a pas aidé, puisqu'on sait qu'en 81, les 18-20, 18-24 ont voté fortement François Mitterrand en avril 81. C'est vrai que ça peut apparaître aussi comme une fausse bonne idée. Alors, sur le papier, ça peut être intéressant, ça fait une sorte d'entrée plus rapide dans la vie citoyenne, ça peut aussi s'inscrire dans un continuum, ce qu'on apprend de la politique en éducation civique à 13, 14, 15 ans, puis je vote directement à 16 ans, notamment aux élections municipales, des élections où on est près du terrain, où on voit concrètement les élus changer la vie.
C'est vrai que c'est plus facile.
N'oublions pas que les élus municipaux, c'est des élus qui bénéficient du plus grand score de confiance de la part des Français. Mais quand on interroge les Français, on est entre hostilité et indifférence. Et les jeunes, une enquête IFOP ANACEJ de 2024, à la veille des élections européennes, c'était pas du pour ou contre, c'était est-ce que le vote à 16 ans pourrait vous inciter des jeunes autour de vous à aller voter ? C'était plutôt deux tiers de non. De la même manière, quand on dit est-ce que voter pour quelqu'un qui vous ressemble, un vote affinitaire, un jeune de moins de 30 ans, vous ferait voter ? La réponse est non. Je pense que les jeunes sont, et on a entendu le témoignage d'Augustin, sont très matures. Ils attendent un sens du vote. Ils attendent que leurs idées soient prises en compte. Ils attendent une campagne de qualité plus que quelqu'un qui leur ressemble ou peut-être voter plus tôt.
Jean Massier, qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Oui, il faut mettre le vote à 16 ans. Je pense qu'on a besoin d'une respiration démocratique dans ce pays, que les jeunes aspirent à cette respiration, à se sentir concernés, à se sentir écoutés. Je rappelle quand même que quand on est un enfant de moins de 10 ans, on peut parfois être entendu en justice. Je rappelle que quand on a 13 ans, on peut finir en prison. Je rappelle que quand on a 14-15 ans, on peut être malheureusement régulièrement contrôlé par la police dans les quartiers populaires.
Donc vous voulez dire qu'on est déjà citoyen d'une certaine manière, donc on
vit
peut
déjà
voter.
Dans la cité, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas donner son avis. On nous juge suffisamment grand pour être tenu responsable de nos actes, on pourrait être suffisamment grand pour exprimer notre opinion dans une urne. Et d'une manière générale, il faut pas se limiter à l'âge du droit de vote, il faut qu'on fasse de la recherche et du développement démocratique, il faut qu'on s'offre des expérimentations, que l'on essaye des alternatives, d'autres modes de scrutin, le vote préférentiel, le jugement majoritaire. Il faut qu'on imagine d'autres manières de voter et c'est ça, à mon avis, qui finira par réconcilier. Et puis des choses bien plus pratiques, comme le vote par correspondance, par anticipation, le vote par Internet.
Mais je ne comprends pas ça, le vote par correspondance. Pourquoi c'est si compliqué de se déplacer pour voter ?
Mais quand on a des bonnes raisons de ne pas pouvoir et qu'on ne peut pas faire de procuration, quand on habite loin de chez soi, on peut envoyer un courrier. Moi, je
quand
trouve
on
que
est étudiant, loin de chez soi, par exemple ?
Par exemple, les étudiants. Mais ce dont je parle, c'est aussi pour les vieux, c'est pas que pour les jeunes. C'est pour tout le monde qu'on a besoin de rendre le vote plus accessible.
Soir, Jean Massier.
Oui, mais je ne veux pas exclure les jeunes du reste de la population. Ils sont la population.
Bien sûr. Et vous, Laurent Lardeux, est-ce que vous êtes favorable à l'idée du vote à 16 ans ? Je précise qu'il y a 33 maires qui ont signé une tribune la semaine dernière dans Ouest France pour dire qu'ils y étaient favorables, des maires de grosses villes, de
mais
Lyon.
Oui, mais ils ont raison.
Il y avait Lyon, Grenoble, etc. Laurent Lardeux.
Oui, alors c'est une question compliquée quand même, une position compliquée à avoir. C'est une proposition en fait qui revient souvent après des élections qui sont systématiquement marquées par une abstention massive. Donc on sait que ces défenseurs du vote à 16 ans soutiennent généralement l'idée que faire participer en fait des jeunes de manière plus précoce permettrait d'associer ce temps de la participation électorale à celui du temps scolaire en fait, en créant au cours des années de lycée notamment des dispositifs d'incitation au vote, des modules d'éducation à la politique, de citoyenneté, des espaces d'échange, de débat dans une école qui est encore, quand même, il faut le souligner, encore frileuse à créer ce type d'espace et de discussion politique. Et d'un autre côté, lorsque cette proposition en fait, est faite aux premiers concernés, ils sont généralement eux-mêmes assez rétifs en fait, à l'abaissement de l'âge de la participation, considérant eux-mêmes d'ailleurs qu'ils sont parfois encore trop faiblement outillés pour s'impliquer, et surtout que les compétences en fait, pour faire un choix sont très fortement liées en fait, à la socialisation politique intrafamiliale, sont très inégalement distribuées dans la société française et que donc seuls les plus disposés en fait à faire très souvent d'ailleurs les plus avantagés d'un point de vue socio-économique le feront en fait et donc on voit que beaucoup pensent aussi que ça va permettre éventuellement d'augmenter la participation mais pas nécessairement le cœur du problème qui reste et ça a été souligné la défiance à l'égard des personnels politiques et des partis.
Mais c'est vrai aussi que le choix des plus jeunes c'est souvent le choix des parents, Jean Massier.
Oui mais ça c'est pas un problème parce que le vote familial c'est le vote des Français, la majeure partie des gens votent de la même manière
oui,
que leurs
parents.
Oui mais
on n'a pas encore construit une conscience politique.
Mais et c'est pas grave, et alors, vous croyez que moi j'ai une conscience politique à 36 ans, j'en sais rien, elle va évoluer ma conscience politique. Je veux dire, il n'y a pas de raison que l'on juge négativement ou qu'on ait du mépris pour les jeunes sous prétexte qu'ils sont jeunes et que donc ils sont en construction. On a tous été en construction, vous croyez qu'on assumera tous toute notre vie nos votes quand on avait 18 ans ? Je ne suis pas sûr. Hein.
Peut-être voilà. Même le vote de la dernière fois.
Je demande à chaque auditeur de France Inter de faire son examen de conscience, d'y réfléchir.
Oui, oui.
Donc effectivement, j'entends l'argument, mais l'argument qui a été avancé est très intéressant, c'est de dire que quand on est jeune, quand on a 16 ans, parfois on s'estime pas assez informé, pas assez mature, pas assez adulte. Moi, je commence par remarquer que c'est une exigence d'éthique formidable. On a quand même des jeunes qui ont une haute estime du vote. Moi, mon premier réflexe, quand j'entends ça, c'est de me dire bravo les jeunes. Enfin, vous prenez pas pour n'importe qui et vous ne prenez pas le vote pour n'importe quoi. Mais vous avez bien raison. Donc maintenant, charge à nous de vous donner envie de voter.
Frédéric Lavie.
Je vais être d'accord avec Jean Massier. Il y a une idée à laquelle je tords le cou, c'est que les jeunes, et quand je dis jeunes, parce que la jeunesse n'a pas d'âge, vous connaissez Bourdieu, de quels jeunes je parle ? Je parle des primo-votants, ceux qui votent par exemple
pour la
première fois à une présidentielle, il y a le côté rite initiatique. C'est faux de dire que les jeunes sont, je dirais, irrésistiblement tentés par le non-vote, par la non-participation, par l'abstention. Bien sûr, on a tous en tête 10 avril 2022, dernière élection présidentielle, où sont les données FOF fiduciales pour TF1 LCI, on a 41% des primo-votants qui ne sont pas allés voter. Mais c'était le fait d'une campagne qui n'a pas eu lieu, d'une campagne qui a été percutée par le Covid, phagocytée par la guerre en Ukraine, où on n'a pas parlé aux jeunes. Il y a énormément d'élections, et vous citiez mon livre avec Stewart Chu, on revient sur toutes les campagnes présidentielles où on avait des données d'enquête. Il y a beaucoup d'élections où, pour les jeunes, comme pour les Français, moi je ne veux pas les séparer, il y a un sens du vote, il y a un intérêt pour le vote, il y a une finalité du vote. 81, la gauche au pouvoir, ou sauver le soldat Giscard. 95, une élection de renouvellement. 2007, des offres extrêmement séduisantes, l'offre Sarko, l'offre Royal, même l'offre Bayrou à l'époque. Même 2017, où les jeunes, en tendance, ont voté, en pourcentage, pardon, autant, voire un peu plus que l'ensemble des Français. Donc c'est pour ça que j'entends ce que vous dites, Jean, sur les modalités, sur une mécanique, vote par correspondance, vote par... Je pense que quand il y a un intérêt pour le vote, et on l'a vu aux législatives, où les jeunes ont quand même voté à niveau,
c'est
parce qu'il y avait cette dissolution, il y avait le sens
voilà,
du vote.
C'est assez intéressant la comparaison entre les législatives de 2022 dans la foulée de l'élection présidentielle. Il n'y avait que 31% des 18-24 ans
60,
qui s'étaient déplacés. Et là, on était à 57% l'année dernière. Ouais. Donc l'enjeu, il reste très important quand même pour changer les choses.
Et heureusement, encore une fois, je suis très heureux et je suis très fier de nos jeunes qui se mobilise quand ça vaut le coup, quand ça a du sens. C'est pas la solution à la crise démocratique n'est pas technique ni technologique. Elle est politique. Donc, à partir du moment où on a des vrais enjeux qui sont posés, où les jeunes se sentent concernés, ils vont voter massivement. Mmh. On a vu des jeunes voter après les marches pour le climat en faveur des écologistes. On a vu des jeunes se mobiliser dans tous les sens, d'ailleurs, autour d'enjeux qui les concernent. Et puis, on a toujours aussi ces grands divorces qui font peur aux jeunes. Le référendum de 2005, beaucoup de jeunes considèrent qu'on n'a pas écouté les électeurs. Les législatives de 2024, on n'a pas non plus écouté parce que la gauche est arrivée en tête. Tout ça, ce sont des arguments qui tournent beaucoup et qui font s'intéresser, s'interroger les jeunes sur « mais à quoi sert mon vote ?» Mmh. Et c'est vrai que les jeunes ont tendance à ne pas toujours aimer la politique, peut-être parce qu'elle n'est pas toujours aimable, et que c'est peut-être à nous de l'améliorer, cette politique, pour permettre aux jeunes de s'y intéresser mieux.
On va y venir, on va écouter Valfroy en attendant. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci, merci déjà d'avoir bien prononcé mon prénom, parce que c'est un prénom qui n'est pas facile à, voilà, à retenir. Alors moi, je vous appelle d'une toute petite commune de 76-450 Cagny-Barville, en Seine-Maritime.
Oui.
Et en fait, moi, mon témoignage de ce soir, c'est que la politique, alors en tout cas à l'échelle locale, bien souvent est confisquée par les seniors, par les anciens, par nos retraités qui ont l'habitude d'avoir été des actifs, voilà, parfois des présidents d'associations, et qui ont du mal à lâcher le pouvoir et qui en fait le gardent et se le transmettent. Et quand on a des nouvelles générations qui veulent arriver, c'est difficile pour eux de se faire de place.
Oui, donc là, c'est pas le vote, là, ce sont les élus. Hein. Vous voulez dire que la place est squattée par les seniors, c'est ça que vous dites?
Ils vont dégoûter les jeunes, en fait, de voter, parce que les problématiques qui sont invoquées ne vont pas du tout concerner les jeunes. Et je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. Quand c'était pour les européennes, il y a eu un engouement quand même de la part de nos jeunes citoyens, parce que les sujets les concernaient.
Mais donc, j'en conclue que vous allez...
Jean Massier a envie de dialoguer avec vous.
Non, mais c'est intéressant. Est-ce que vous allez être candidat, vous, aux élections municipales l'année prochaine?
Alors, curieusement, j'ai été écarté, parce que justement, je suis considéré encore, j'ai 45 ans, finalement, les places ont déjà été prises par des retraités dans ma commune.
D'accord. C'est dommage.
Sinon, il y a des places pour des femmes. On a suggéré à ma femme de faire partie du conseil municipal. Mais moi, non, parce que voilà, 45 ans, je ne suis pas intéressant. Quand j'aurai peut-être 60 ans ou 64 ans, je reviendrai en grâce. Mais en attendant, voilà, je suis mis de côté de la vie politique de ma propre commune. En sachant que je suis contribuable, père de famille et actif salarié.
Alors, Frédéric Dabi.
Je vais un peu nuancer ce que vient de dire Valfroy, même si son témoignage est bien sûr véridique, hein, vrai. Mm. Effectivement, les places dans les villes sont chères. Pourquoi? Parce que les élus municipaux sont le plus souvent reconduits. On parle des Français mécontents qui sortent les sortants, qui sont dégagistes. Absolument pas pour les élections municipales où la règle, c'est de reconduire les sortants. Mais lorsqu'il y a des alternances, j'ai en tête la plus grande alternance récente, les municipales de 2014, où la gauche avait perdu 171 villes de plus de 10 000 habitants, il y a eu une très forte poussée, une très forte entrée de jeunes, alors de moins de 30 ans, moins de 35 ans, même aux premières places, comme premier édile, dans les conseils municipaux. Mais c'est vrai que c'est un épiphénomène, parce que même en 2014, où la gauche a perdu beaucoup de villes, ce chiffre, donc je viens de citer 171 villes, ramené au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, ça veut dire quand même trois quarts des villes ont été reconduites. C'est ça aussi la difficulté pour entrer des jeunes.
Les maires sont les élus qui sont quand même toujours les plus proches de leurs concitoyens.
Oui, à portée de baf, comme on dit.
Et voilà, mais je voulais juste ajouter, dans l'étude dont on parlait tout à l'heure du cercle des économistes, à la question « Vous sentez-vous bien représenté par le président, les députés ou les maires, la réponse est non à 74% quand même. Donc ça raconte quelque chose, Jean Massier.
Bien sûr, il y a un divorce qui est important. Pour les élections locales dans les zones rurales, il faut quand même rendre hommage aux élus locaux qui font preuve d'une abnégation républicaine impressionnante pour accepter ce sacerdoce qui est celui du mandat local. C'est vrai que ce sont souvent des personnes âgées, pour des raisons de reconduction, comme l'a dit Frédéric Dabi, mais aussi parce que beaucoup de jeunes ne sont plus là. Quand on est jeune en zone rurale, on part souvent faire ses études à la ville, si je puis dire. Parfois, il y a un retour après, pas toujours. Il y a beaucoup de mobilité aussi des jeunes qui rendent difficile l'ancrage territorial, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que beaucoup d'élus locaux aussi me disent parfois, j'ai du mal à remplir ma liste avec des jeunes, parce que les jeunes, ils sont insaisissables, ils bougent tout le temps, leur perspective est à 1 an, 2 ans, alors qu'un mandat, c'est pour 5 ans.
Mm-hmm.
Donc, voilà.
Laurent Lardeux, en tant que sociologue, est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils attendent les jeunes aujourd'hui? Quels sont les sujets prioritaires? La santé, le pouvoir d'achat, l'emploi?
Alors c'est une vaste question, mais c'est vrai qu'on a une enquête pour ça qui permet de voir l'évolution des valeurs en fait des jeunes, mais pas seulement des jeunes d'ailleurs, parce que c'est intéressant d'avoir des comparaisons aussi entre les générations. On voit que les valeurs ont quand même changé. On pourrait penser que d'ailleurs dans une société qui est beaucoup plus que certains, en tout cas, dépeignent comme étant beaucoup plus individualistes, en fait, les jeunes s'engagent davantage pour des causes qui sont pas liées au pouvoir d'achat, qui sont pas liées à leurs conditions personnelles, qui sont pas liées au travail ou à la précarité, mais davantage pour des causes post-matérialistes, c'est-à-dire des valeurs davantage humanistes, liées à la question de la lutte contre les discriminations, liées à l'environnement, la justice sociale, la défense de la liberté d'expression.
C'est ce qui nous vient en premier à l'esprit, l'environnement, parce qu'on parlait tout à l'heure dans l'émission de Greta Thunberg, c'était il y a 8 ans déjà, et c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu retombé le soufflet environnemental, Frédéric Dabi.
Oui, alors c'est vrai que sur les préoccupations, il y a d'abord un mouvement d'homogénéisation entre les jeunes et l'ensemble des Français. Je rebondis sur ce qu'a dit Jean Massier, le jeune de 18-30 ans, il n'est pas sur un iceberg, il n'est pas sur une banquise, il est comme l'ensemble des Français, et on a une homogénéisation sur santé, éducation, pouvoir d'achat, sécurité, et entre parenthèses, sur la question sécuritaire, le clivage de droite s'est absolument effondré. Il y a des surinvestissements des jeunes sur la lutte contre les discriminations, c'était les années 80 avec SOS Racisme, actuellement également, et le climat. Mais c'est vrai que sur le climat, même chez les jeunes, il y a quand même deux effets qui limite, même si la prise de conscience est là, même si dans l'enquête Nouvelle Vague de 2021, on avait un quart des jeunes qui nous disaient « je suis prêt à mourir pour le climat », on a deux effets un peu pervers. Le côté « c'est foutu, c'est inéluctable, il est trop tard », et un effet que j'appelle « messieurs les Anglais tirez les premiers », c'est-à-dire c'est pas à nous Français de faire les choses, c'est aux Allemands avec leurs centrales à charbon, c'est les Chinois, c'est les Russes, c'est les Américains, même si quand même, auprès des jeunes, il y a cette éco-anxiété, vous en parlez dans votre introduction, qui reste très fort et qui les fait se mobiliser. On a une jeunesse peut-être un peu dépolitisée, qui croit plus à l'intérêt du vote souvent, qui est sur une logique de vanité du vote, voter c'est vain, voter à quoi bon voter, mais qui n'est pas désengagée notamment sur ces enjeux-là.
Jean Massier.
Les jeunes ne sont pas réfractaires par nature à la politique. Les jeunes ont un rapport conflictuel à la politique et à son personnel, notamment à ses institutions aussi parfois. Mais ça, j'ai envie de dire, ils le partagent avec leurs parents.
Pourquoi ont-ils un rapport conflictuel avec le personnel politique?
Et parce qu'ils sont déçus par le personnel politique, parce qu'ils ont l'impression, qui est peut-être parfois validée, qu'il y en a beaucoup qui sont pourris, qui sont corrompus, qui ne cherchent pas l'intérêt général, mais leur intérêt particulier.
Est-ce que ce qui se passe, par exemple, depuis un an, depuis la dissolution et le spectacle qu'on voit à l'Assemblée nationale, où on est coincé entre des invectives possibilités de motions de censure, ça doit faire des dégâts terribles sur l'opinion, Frédéric Dabi, et sur les jeunes en particulier.
Il y a une vraie éclipse du politique. Les Français et les jeunes ont l'impression que c'est plus là que ça se passe. Ils voient des politiques qui parlent à eux-mêmes pour faire ces majorités improbables et éviter ou un 49-3 ou tomber suite à une motion de censure. Et c'est vrai que l'attente originelle à l'égard du politique, en contrepartie de mon vote, les politiques pèsent sur le cours des choses, transforment le quotidien, changent ma vie, le fameux changer la vie des années 70, n'est plus possible à l'échelle nationale. Et la politique ayant horreur du vide, il y a deux acteurs qui émergent chez les jeunes comme chez les Français, l'entrepreneur qui lui fait des choses concrètes, et bien sûr le maire, l'élu local. Ce qui se passe depuis 2022, c'est encore plus grave qu'un désintérêt, qu'un rejet, c'est un désintérêt et une indifférence.
Laurent Lardeux.
Oui, non, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la défiance des citoyens et notamment des jeunes hein, à l'égard des élus, mais il existe aussi, et ça c'est important de le souligner, des politiques qui tiennent aussi à distance les citoyens. Donc il y a une forme de réciprocité en fait, c'est-à-dire que la défiance que les citoyens expriment à l'égard des élus depuis plusieurs décennies peut aussi être vue comme un peu le reflet en fait de la défiance de certains élus, des décideurs de façon générale, à l'égard de certaines formes d'expression politique désormais plus alternatives, plus contestataires, qui ne passent pas que par le vote. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que soit les jeunes en fait ne votent pas et donc ils vont être très vite considérés comme dépolitisés ou désintéressés par la chose publique, ce qui est de moins en moins vrai d'ailleurs. Soit ils s'engagent, manifestent, participent à des actions collectives, notamment sur le climat, on en a parlé. Et alors là, on les considère non plus comme dépolitisés, mais comme radicalisés, wokistes, éco-terroristes, etc., avec un ensemble de disqualifications qui ne facilitent pas en fait le dialogue apaisé entre les citoyens et les jeunes élus. Donc voilà, il y a cette forme de réciprocité quand même d'une défiance à une autre qui peut expliquer aussi cette prise de distance.
Jean Massier.
C'est vrai qu'il y a des politiques qui excluent les jeunes. Si on regarde les mesures qui ont été prises depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en direction de la jeunesse, si on met de côté les mesures d'orientation et d'insertion professionnelle, on a le pass culture qui est plutôt une bonne chose et saluée par beaucoup d'observateurs dont les jeunes qui en bénéficient. Mais il y a aussi le service national universel avec tout son imaginaire, cette mise au garde à vous de la jeunesse. Ça aussi, ça donne pas envie aux jeunes de s'intéresser à la politique et d'accorder le moindre crédit aux personnes qui promeuvent cette politique. Ça fait aussi penser à la tirade de Gabriel Attal, pourtant le plus jeune Premier ministre de l'histoire, qui a dit « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies », etc. Ce tutoiement méprisant...
Ça, c'est un discours qui ne passe pas du tout.
Ah, mais c'est totalement ravageur. C'est totalement ravageur
pour les jeunes. C'est beaucoup plus... c'est un peu plus mesuré. Ça dépend de quelle jeunesse on parle.
Oui, c'est toujours pareil.
Le SNU, il y a plutôt une approbation chez les jeunes, c'est le caractère obligatoire.
C'est le caractère obligatoire.
Non, mais c'est quand même mal perçu.
Ceux qui sont favorables et qui ont envie de le faire sont favorables, évidemment. Mais pour les autres, c'est non. Et donc, effectivement, au demeurant, la jeunesse n'est pas homogène et il faut garder ça à l'esprit.
Oui.
Mais il faut aussi faire attention à la manière qu'ont les jeunes de s'exprimer en politique, parce que depuis tout à l'heure, dans cette émission, on parle du vote. Mais le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de l'engagement en politique, et surtout pour les jeunes. Et les jeunes se politisent, notamment sur Internet, dans d'autres manières de se politiser qui échappent à nos regards. On a du mal à les lire, on a du mal à les comprendre, mais les réseaux sociaux... Les plateformes numériques apportent d'autres manières de se politiser, l'éducation populaire en ligne, les débats, les discussions, les forums, les jeux vidéo, tout ça c'est aussi une manière de se parler, de faire société et donc de se politiser.
Ben, on va en parler justement avec Jean-Michel. Bonjour, bonsoir Jean-Michel.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon intervention. Oui, moi je me demandais si effectivement les responsables publics avaient vraiment envie, au niveau local ou national, enfin régional, départemental, qu'il y ait des citoyens. C'est-à-dire un citoyen, c'est quelqu'un qui pose forcément des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je sais qu'en dans le paragraphe 1.5.6 des contributions de la France au niveau international, il est bien mentionné que tout questionnement est considéré par le responsable public comme une remise en cause de la légitimité du pouvoir. Deuxièmement, je parle du chapitre 28 de l'agenda 21 de Rio, parce que je suis un militant, j'ai été un militant très actif pendant très longtemps, donc je les ai côtoyés, des Manuel Valls, des Alain Juppé, des Louis Gallois, etc. Je les ai plutôt fait fuir qu'autre chose, simplement parce que j'ai demandé à être entendu. C'est-à-dire que la démocratie est le mode de fonctionnement qui permet aux citoyens de participer à la vie de la cité. Or, dans les conseils municipaux, vous n'avez pas le droit de prendre la parole éventuellement parce qu'on vous dit de suite, attention, trouble à l'ordre public. On ne peut y avoir trouble à l'ordre public qu'éventuellement après que la question a été posée et qu'elle ait fait débat. Elle ne peut pas, on ne peut pas dire il y aura trouble à l'ordre public avant que le fait se soit passé. Et on n'écoute pas les gens et on ne leur demande rien. J'ai des tas d'initiatives qui ont été carrément capotées, où des personnes avaient fait des projets et qu'on aurait pu mettre en concurrence avec le projet de la municipalité.
Oui. Pardon de vous interrompre, Jean-Michel, mais la ligne n'est pas très bonne. Ce que vous vouliez dire, en fait, c'est que la démocratie, ce n'est pas que le vote, et ça va dans le sens de ce que vous disiez à l'instant, Jean Massier.
Quand on parle des conseils municipaux, c'est intéressant. On a un vieux carcan, très Troisième République, le conseil municipal présidé par le maire, qui se tient de manière très religieuse, à la même horaire, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'imaginer là aussi des innovations, des tentatives dans les territoires qui imaginent
quelque chose de moins solennel, vous voulez dire ?
Peut-être un peu moins solennel, mais qui implique le citoyen. Par exemple, le fait pour les citoyens de pouvoir poser une question, juste poser une question. On a bien les questions au gouvernement.
C'est ce que disait Jean-Michel.
Mais Jean-Michel, c'était intéressant.
C'est considéré comme un trouble à l'ordre public si on pose une question alors que c'est pas prévu.
Exactement, seuls les élus ont le droit de parler.
enfin quand même, les maires, beaucoup de maires mettent en place beaucoup de choses.
Oui, genre, mais ça dépend de leur bonne volonté.
Le vote, c'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Le conseil municipal, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie locale. Il y a les conseils de quartier, il y a les bilans de mandat, il y a les conférences citoyennes, il y a la démocratie participative. Mais c'est vrai que c'est même dans un contexte où le maire bénéficie d'une confiance très forte de la part des Français. En gros, il y a 30 points ou 40 points de confiance supplémentaire entre un maire et le président de la République ou le Premier ministre, ce n'est pas rien. Mais il y a une dimension sur laquelle il y a systématiquement une évaluation moins favorable, c'est le sentiment de ne pas être assez associé aux décisions. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas écouté. La crise de l'écoute, qui est très forte et qui est au cœur de cette crise démocratique, est beaucoup moins forte à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. Mais plus que jamais, on veut être associé à la décision, y compris à l'échelle locale.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de démo-anxiété, comme on a parlé d'éco-anxiété vis-à-vis des jeunes, Jean Massier ?
C'est difficile parce que quand on parle d'éco-anxiété, on fait quand même face à la fin du monde. C'est quand même ça, l'anxiété, l'effondrement du climat, l'effondrement de l'habitabilité de la Terre, c'est quand même autrement plus flippant que la question démocratique est importante, mais pas à ce niveau-là. On peut parler de démos blasés, de démos saoulés, de démos tout ce que vous voulez, je ne sais pas, j'essaie de trouver des termes. Mais pour désigner cette espèce, effectivement, de ras-le-bol qui, encore une fois, pour moi, est d'abord la preuve d'une exigence citoyenne de la part des gens. Si vraiment les gens s'en foutaient, ils s'en foutraient vraiment.
C'est une exigence citoyenne ou c'est une crise de la démocratie représentative, Frédéric Dabi ?
C'est une double crise. C'est d'abord une crise du résultat. C'est une crise de l'efficacité. Le politique ne change plus la vie et c'est le problème depuis une trentaine, une quarantaine d'années en France à l'échelle nationale. Quant à l'échelle locale, les élus municipaux parviennent à réenchanter le politique. C'est une crise du résultat. C'est une crise de l'écoute, et avec, quand on interroge les Français dans les enquêtes qualitatives, ils racontent les différents moments où ils ont eu le sentiment de ne pas être écoutés. Vous en parliez, le référendum du 29 mai 2005, on va fêter ou commémorer les 20 ans, où les Français ont le sentiment que, après le non très fort, à 55%, quelques années après, on a fait passer en douce,
on l'a fait passer
dire,
de toute manière.
Un oui au traité de Lisbonne, au moment du Covid, au moment des Gilets jaunes, au moment de la réforme des retraites. Pourquoi la réforme de 2010 de Nicolas Sarkozy, François Fillon et Éric Woerth a été soutenue par une majorité de Français ? Pourquoi celle de 2023 a été autant rejetée ? C'est une crise de l'écoute. Et c'est vrai que je ne parlerai pas de démo anxiété parce que justement, les jeunes, dans une logique d'efficacité, sont parfois, et c'était l'enquête Nouvelle Vague de 2021, prêts à sortir du cadre démocratique avec une radicalité plus forte. Il y avait 42% qui étaient prêts à élire un militaire ou un général. Pas parce qu'ils sont militaristes, parce qu'il y a cet imaginaire d'efficacité, de choses qui vont aller mieux que ce cadre démocratique. Donc je ne parlerai pas du tout des mots anxiété.
Il y a une crise de l'écoute, mais il y a aussi des solutions qui sont apportées. Et là, il faut rendre hommage effectivement aux élus locaux qui, depuis une vingtaine d'années, quand même, innovent. Imagine des conseils de
par
quartier.
Exemple.
Imagine
des conseils de quartier.
Paris est un exemple. C'était Bertrand Delanoë qui a beaucoup innové là-dedans, faisant des comptes rendus de mandat, en disant aux électeurs, venez engueuler votre maire. C'est un exemple qui m'a frappé. Il y a beaucoup de maires qui essayent d'imaginer des modalités d'association de la population et des électeurs à la prise de décision. C'est pas toujours facile, vous savez, de remplir une réunion publique le soir pour parler de la construction du futur gymnase. Il y a des élus qui galèrent aussi. Il y a des élus qui disent, mais comment ça se fait que les gens viennent pas alors que je mets tout en place pour les écouter, j'ai envie de les écouter. Donc c'est pas simple. Je veux dire, il y a quelque chose à trouver, il y a une mayonnaise qui doit prendre, il y a une méthodologie à inventer, et puis il y a des expérimentations à continuer, à poursuivre. Les conventions citoyennes étaient et continuent à être de bonnes idées, ça produit des résultats intéressants qui, à mon avis, doivent continuer à être expérimentés.
Voilà, bonsoir cette fois, Patrice Geoffron.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes. On voulait que vous soyez avec nous parce que tout part de votre enquête conversationnelle donc, qui a été menée par le Cercle des économistes. Est-ce que le débat que l'on a ce soir correspond finalement au résultat de votre enquête ?
Oui, tout à fait. Bon, il y a une défiance qui est assez large. Les trois quarts des jeunes gens entre 18 et 30 ans qu'on a interrogés sont plutôt défiants. Ce qui est extrêmement intéressant et plutôt préoccupant, c'est que cette défiance, elle est croissante. On a des données assez fines. Les 18-22 ans sont moins défiants que les 27-30 ans. Mmh. Il est intéressant de mettre tout ça en regard d'une autre donnée qui est que à près de 80% d'entre eux, ils considéraient que le vote en ligne pourrait les conduire à voter de manière plus régulière, voire à voter tout court. Il y a un taux finalement de non-vote pour les plus jeunes qui a augmenté terriblement entre 2000 et et maintenant. Donc c'est un point qui est important. Par rapport à ce qui a été évoqué au début de l'émission sur la possibilité de voter dès 16 ans,
oui, il me d'abaisser semble que l'âge si de vote à 16 ans,
intervenir,
ouais.
Si ça devait intervenir dans les conditions actuelles, qui ne correspondent pas finalement à la manière dont ces jeunes gens s'informent et puis agissent par ailleurs et très largement en ligne via les réseaux sociaux, il me semble que si il serait préférable d'envisager des modalités de vote en ligne plutôt que de baisser l'âge du vote.
Pourquoi ?
Sinon, on risque. Parce qu'on risque de se payer de mots et en fait, la désaffection et le taux de non-vote étant extrêmement élevé aux alentours de 18 ans, il y a de bonnes raisons d'imaginer qu'il soit non moins élevé entre 16 et 18 ans. Donc on aurait fait évoluer la règle en théorie, mais de fait, pas nécessairement le taux de participation les plus jeunes. Il y a une autre donnée...
Mais faisons les deux, alors.
Jean Massier, oui.
Faisons les deux, alors.
Mais oui, moi, je n'ai absolument pas opposé. J'ai fait partie des grands bénéficiaires en 1981. J'ai voté grâce à Giscard qui avait abaissé l'âge du vote, donc, et je m'en suis très bien porté. Pourquoi pas. Mais à la condition, encore une fois, qu'on ait des modalités de vote qui correspondent aux attentes. Par ailleurs, tout dernier point, et je sais que je parle sur France Inter, dont je suis un auditeur très régulier, mais ces jeunes gens nous disent à près de 60% qu'ils ont peu d'espoir d'avoir une retraite. Et donc l'appétence finalement pour le vote renvoie à la nature, à la tonalité des débats publics et à la manière dont le temps d'antenne et puis globalement le débat dans l'agora tel qu'il s'organise correspond à leurs préoccupations, correspond à préoccupations des générations qui les précèdent.
On ne parle pas assez de ce qui les concerne et de ce qui les intéresse, Jean Massier ?
Paradoxalement, si, on en parle beaucoup. Non, mais si, bien sûr, il y a une question aussi du traitement médiatique, et c'est vrai qu'il faut reconnaître que malheureusement, il y a une forme de décrochage entre des médias plus traditionnels qu'on va retrouver à la télévision et à la radio, qui ont un public vieillissant. La télévision, par exemple, c'est un an d'âge moyen chaque année. Ça montre bien que la télévision est en train de mourir de fait, parce qu'il n'y a pas de renouvellement de son audience. La radio, c'est pareil. Et de l'autre côté, il y a Internet.
Nous, on renouvelle, je vous promets.
Oui, c'est vrai, France Inter.
C'est un travail de fond, mais on y arrive.
On retrouve du coup sur Internet une forme d'alternative aux médias traditionnels qui en réalité n'a pas beaucoup de sens quand on constate les chiffres et qu'on se rend compte que les médias traditionnels restent les médias dominants massivement du débat politique et structurant du débat politique. Internet, dont je suis un acteur, n'est qu'un petit cousin éloigné qui tente de survivre et qui aujourd'hui n'est pas du tout dominant.
Laurent Lardeux, vous souhaitiez intervenir ?
Dans les différentes enquêtes qu'on mène, on essaye de savoir, de mieux connaître les raisons en fait de cette abstention. Et ce qui revient souvent quand même, c'est les enjeux mobilisateurs en fait des campagnes. Et ce qui revient souvent, c'est que ces enjeux mobilisateurs en fait sont souvent éloignés en fait des aspirations, des préoccupations des jeunes en fait. Notamment, on voit que les campagnes tournent beaucoup autour des opinions plus conservatrices en matière d'immigration, de sécurité, qui ont été des thématiques centrales portées lors des dernières élections par les candidats. Et certaines chaînes d'opinion. Donc, toutes les questions, en revanche, liées à la justice sociale, l'égalité, la participation citoyenne, l'environnement et bien sûr aussi les effets de la crise sanitaire, parce que du coup, les jeunes ont quand même été très impactés par cette crise et le sont encore aujourd'hui, sont des sujets qui sont quand même très, très peu traités, quoi. Et du coup, on voit qu'il y a quand même des répercussions sur cette mobilisation ou cette absence de mobilisation et donc les enjeux qui sont portés par les candidats. Dans la mesure où, effectivement, les jeunes pèsent moins électoralement que d'autres catégories d'âge qui se mobilisent davantage. Mmh. Et donc, avec le risque inhérent de disparaître un peu des radars de la vie politique. Notamment, et là c'est important de le signaler aussi, ceux qui sont, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, faut quand même rappeler aussi qu'il y a certaines catégories de jeunes qui votent massivement, et puis d'autres catégories de jeunes, les moins diplômés, ceux qui vivent dans des espaces ruraux notamment, dans des quartiers populaires, ceux qui sont, qui sont d'origine socio-économique moins avantagée ont tendance quand même à moins voter, et donc à être moins représentés aussi dans la vie politique actuelle.
On a une remarque de Gabriel, qui nous a envoyé un message sur l'appli France Inter. Les jeunes sont plus sensibles au format qu'au sujet. Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean Massier. Si la politique est formatée sur les supports qu'ils utilisent, les jeunes vont s'y intéresser. Les médias plus traditionnels sont moins pertinents pour les nouvelles générations. Frédéric Dabi.
Mais ça, c'est complètement ça. Je fais encore référence à l'enquête IFOP Anna Sèche faite avant les élections européennes. Les deux vecteurs qui ont le plus intéressé pour contribuer à la formation du vote des primo-votants en 2024, c'est Snapchat et TikTok, oui. C'est-à-dire des vecteurs qui existaient à peine il y a 5 ans. On est dans une vraie révolution entre les vecteurs qui intéressent les jeunes aujourd'hui, qui les socialisent, n'existaient pas il y a encore 5 ans, et ce ne sont plus les mêmes vecteurs que l'ensemble des Français. Les conversations, oublions la télé, la radio, les conversations en famille, dans les enquêtes Nouvelle Vague, la part des jeunes qui ont des conversations politiques en famille s'est effondrée de 20 ou 25 points depuis 1999. Donc effectivement, on est sur des formats très différents. Maintenant, je voudrais quand même nuancer ce qui a été dit, mais ça a été dit en fait après. Il n'y a pas une jeunesse. Il y a des jeunesses. Bien sûr, il y a une jeunesse des primo-votants qui n'a peut-être pas aimé les débats droitiers sur l'immigration ou l'insécurité. Il y a aussi une jeunesse de 25-30 ans qui a voté très fortement Jordan Bardella aux élections européennes, qui s'est reconnu dans ses discours et le lien, par exemple, entre l'immigration et l'insécurité. Que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Jordan Bardella, on a des politiques qui sont fortement sur TikTok, mais une fois de plus, les modalités du vote, le vote en ligne, etc., je veux bien, mais on a les exemples récents, et on a cité les élections législatives, montrent que s'il y a un intérêt pour la campagne, s'il y a un sens du vote, les jeunes, massivement, peuvent aller voter.
On va prendre Cathy pour achever cette émission. Bonsoir Cathy.
Bonsoir. Oui, je voulais vous parler des conseils municipaux de jeunes. Dans l'aglo où je suis, là, dans l'Eure, il y a plusieurs communes, dont trois que j'ai en mémoire, qui ont des conseils municipaux de jeunes. En fait, ils font élire des délégués dans les écoles primaires.
Oui.
Dans les grandes classes des écoles primaires. Et il y a le même nombre de conseillers.
C'est ça, c'est un conseil municipal, mais avec les enfants.
Ils sont mis en relation avec le conseil municipal élu par les citoyens. Ils font des propositions, mais vraiment concrètes.
Hein, oui, absolument. C'est très concret. Merci Cathy, pardon, je vous bouscule un tout petit peu, mais parce qu'on arrive un peu à la fin. Jean Massier, pour vous, c'est un peu l'avenir, ça ?
Non, c'est l'un des outils dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois des élus locaux, des maires qui se disent « mais j'ai envie d'entendre les jeunes de ma commune, j'ai envie qu'ils me parlent, donc je vais créer un conseil municipal des jeunes ». Et c'est formidable, c'est une très très bonne idée. Malheureusement, ça repose beaucoup sur la bonne volonté des élus. Il suffit que le maire et l'équipe municipale aient vraiment, sincèrement envie de travailler avec les jeunes et de construire avec eux une relation sur le long terme. Ça peut donner des projets incroyables, des trucs vraiment très très chouettes qui bénéficient à toute la ville, un festival de musique, une opération, une manière de penser, un équipement, quelque chose comme ça. Par contre, malheureusement, ça peut aussi être un simple élément de communication pour le magazine municipal.
Frédéric Dabi.
C'est le problème des conférences citoyennes. D'un côté, on a de très nombreux jeunes qui sont très intéressés parce qu'il y a ce temps de formation, d'information sur un sujet pour leur faire passer de profane à expert et interpeller des élus. De l'autre, c'est vrai qu'il y a parfois une tendance à vouloir surcommuniquer et ne pas tenir compte de la vie citoyenne, même si, une fois de plus, il ne faut pas opposer démocratie participative et démocratie représentative. C'est le politique qui doit avoir le dernier mot, mais en écoutant, en consultant.
Bon, on garde espoir quand même, hein ?
Oui, bien sûr qu'on garde espoir. Et s'il y a des politiques qui écoutent cette belle émission, écoutez les jeunes au lieu de leur parler, ce sera bien.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Jean Massier, merci Laurent Lardeux qui était en ligne avec nous. Merci aussi à Frédéric Dabi. Bonne soirée à vous tous.